Depuis toujours, l'univers connaissant l'eau de massacres et d'histoires sordides. Laissez-vous porter par une enquête à la fois. Venez découvrir des histoires inédites.
Bonjour, chers auditeurs. Saviez-vous qu'au Québec, nous avions annuellement 1 à 2 néonaticides? D'ailleurs, selon le docteur Labbé, c'est plutôt environ 12, qui est à dire plus ou moins là, 8,1% selon le dictionnaire des homicides de M. Éric Veillette. Bref, je sais pas quoi rajouter à ça. Je sais pas si t'as de l'inspiration.
Non, mais c'est en tout cas, c'est les chiffres que ça me donne jusqu'à maintenant. On en a parlé dans la balado d'intro que je travaillais sur un dictionnaire des homicides depuis déjà quelques années, puis jusqu'à maintenant, parce qu'il faut le dire qu'il n'est pas complété non plus, jusqu'à maintenant, c'est le chiffre que ça me donne un petit peu plus que 8% de néonaticides au Québec, parce qu'il y a des périodes il y a des choses qui ne fonctionnent pas, là. J'ai l'impression que les informations passaient moins, mais il y a certaines périodes, on dirait que les journaux, le public en général, n'étaient pas gênés d'en parler, donc ça ressort plus. Il y a des années qu'il y en avait beaucoup, là. Donc c'est ça, ça pourrait être plus que 8%. Mais depuis 92, parce que le docteur Labbé avait lancé ça en 92, lui, il a de l'expérience, là. Il a travaillé 40 ans avec la Sûreté du Québec là, pour les enfants maltraités et tout ça au Québec. Puis, selon lui, il y en aurait beaucoup plus que ça. C'est parce que les accusations, les cas ne deviennent pas tous publics parce que les accusations ne sont pas portées dans tous les cas. Il y a des cas qui sont bien difficiles à prouver. Alors, ça serait pour ça.
Donc, juste pour faire un résumé, la statistique officielle qui dit 1 à 2 par année, c'est vraiment d'accusations déposées. Donc, il y en a beaucoup plus, c'est juste que c'est dur à prouver pour pouvoir porter une accusation formelle.
C'est ça. Parce que quand moi, j'ai commencé mes recherches depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai été rendu à peu près dans les années 20-30, ça me donnait même beaucoup plus que 8%. Ça me donnait, à un moment donné, le chiffre le plus haut, c'était 14%. Puis là, ça a baissé parce qu'on dirait qu'il y en a moins, mais là, il faut dire que mes recherches ne sont pas terminées non plus. J'ai des années que je suis sûr que j'ai pour répertorier tous les homicides là, chaque année. Puis à cette époque-là aussi, c'est ce qui nous amène, on parle de néonaticide, mais il faut dire à nos auditeurs c'est quoi, parce que beaucoup, le néonaticide, c'est le mot qui est le plus précis pour le désigner, parce qu'il faut faire une différence entre deux catégories, et je vais l'expliquer. Le néonaticide, c'est le meurtre d'un enfant âgé de 24 heures et moins, donc un nouveau-né. D'où le mot néonaticide pour un nouveau-né. Donc, c'est l'homicide d'un nouveau-né. Il est âgé de moins de 24 heures parce que si on va dans le 24 heures et plus, les profils changent. Il y a un certain profil qui se dessine dans le sens que pour le néonaticide, c'est presque en totalité, je dis presque parce que jusqu'à maintenant, j'ai découvert deux exceptions. C'est presque toujours la femme qui tue le bébé. Parce que, bon, ben souvent parce qu'elle est la seule à savoir qu'elle est enceinte, il y a beaucoup de déni de grossesse dans ça. Et puis, le cas type, là, c'est qu'elle va accoucher dans un endroit isolé, souvent dans les toilettes, parce qu'elle va vraiment le nier jusqu'à la fin, même si des fois, on peut penser qu'elle le sait qu'elle est enceinte. Mais souvent, ça se passe dans les toilettes.
Puis, tu as parlé d'exceptions. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur quelles sont les exceptions?
Bon, comme je disais, il y a des exceptions. J'en ai trouvé une première exception en septembre 1861. Dans ce cas-là, c'est le père maltraitant, un dénommé Alexander Burns, qui avait 45 ans. C'est lui qui s'est débarrassé de son bébé, contrairement à la mère. Mais dans ce cas-là, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faut faire attention à nos hypothèses, que peut-être parce que c'était lui qui était le père et que c'était une question d'inceste parce qu'il avait eu cet enfant-là avec sa fille, avec l'une de ses filles. Donc, Alexander Burns, il entretenait un climat familial aussi assez spécial. Là. Il y a de ses fils même qui ont voulu se sauver de là. Donc, est-ce que ce serait pour ça, justement, qu'il a tué le bébé? Parce que lui, il voulait pas en avoir, puis il voulait surtout pas que avoir sous les yeux tout le temps une preuve de l'inceste. Fait que c'est ça, ce serait une hypothèse. Donc, c'est un des rares cas qu'un bébé âgé de moins de 24 heures est tué par un homme. Et l'autre cas d'exception, c'est ça se passe le 27 mai 1920. Dans ce cas-là, c'est un père aussi. Et qui a pris le nouveau-né. Dans ce cas-là, on a un nom. Parce que, tu sais, il faut dire aussi que les néonaticides, quand j'ai commencé à faire mon dictionnaire sur les homicides, c'était un peu... j'avais l'impression que c'était les laisser pour compte parce que souvent, ils n'ont pas de nom. On trouve ça dans les enquêtes de coroner. Des fois, on dit, ah, un bébé mort là... T'sais, on voit que c'est un homicide, on voit que c'est un crime, mais souvent le bébé a pas de nom. Mais dans ce cas-ci, elle a un nom. Elle s'appelait Marie-Delphine Eugénie Terrien. Et puis bon, ben, elle a été tuée le jour même de sa naissance parce que son père, qui était Charles-Eugène Roussel, 25 ans, c'est bien de le spécifier, 25 ans, parce que je vais y revenir, ça sera pas long. Ben, il l'a jeté carrément dans les eaux du fleuve, mais dans ce cas-là, lui, on ne sait pas si c'est de l'inceste ou quoi que ce soit. On n'a aucun motif, on ne le sait pas. Par contre, il a été en février 1921, il a été reconnu coupable au terme de son procès et condamné à mort. Ça aussi, on va voir que les condamnations sont assez... malléable, si on veut, ils ont changé avec le temps. À une certaine époque, on condamnait à mort, puis aujourd'hui, ben, on donne presque rien. Donc voilà. Mais sa sentence à lui a quand même été commuée. Pour ceux qui connaissent pas le mot commuée, ça veut dire bon, une transformation de sentence, un ajustement. Donc il a fini en prison. Mais une petite recherche à gauche à droite m'a permis de le retrouver en 1928. Donc ça veut dire que 8 ans après, il était libre au moins. Parce qu'il s'est remarié le 8 juin 1928 à une dénommée Émérilda Boucher, aussi de Rivière-du-Loup. Donc, lui, il n'a pas déménagé. Il n'avait pas honte de ce qu'il a fait. Il a resté à la même place. On imagine qu'à Rivière-du-Loup, tout le monde se connaissait. Fait que lui, c'était pas grave. Il est resté là.
J'étais certaine que tu allais faire une joke d'essai.
Ouais. Non, mais c'est ça. T'sais, il est resté là.
On a ri comme ça, mais on est très au courant que c'est des sujets qui sont oui, extrêmement évidemment. Sérieux. Puis d'ailleurs, c'est sûr que c'est... ici, dans le podcast, on va aborder des sujets qui sont très sensibles. Donc, il faut s'y attendre que... Malheureusement, c'est ça, c'est pas toujours des sujets qui vont être faciles. Puis il y a certains sujets qui vont vraiment peut-être vous toucher plus que d'autres. Pour les parents, ben tout ce qui traite des enfants, ça peut être quelque chose de vraiment dur à écouter. Puis dans divers autres circonstances. Donc, je voudrais te demander aussi, en fait, là, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus, en fait, du profil?
Oui.
Y a-t-il un profil qui se dessine particulièrement dans ces cas-là?
Oui, ben je parlais d'âge justement tantôt, puis effectivement, normalement, parce que là, on vient de parler de deux exceptions qui étaient des hommes, mais en fin de compte, si on veut retenir le profil, il faudrait les exclure, parce que c'est quand même des cas très rares. Là. C'est une mère, c'est la mère qui tue dans ces cas-là. Et selon le CCM3, on en avait parlé en intro, qui est l'œuvre de John Douglas et tout son clan, là, la psychiatre aussi Burgess. Le profil, eux autres, ils en ont fouillé des milliers de dossiers au FBI, fait qu'ils en ont vu des une puis un autre. Là. Donc, c'est tout le temps des mères âgées de 25 ans et moins. C'est assez frappant parce que quand tu tombes dans des bébés que les victimes sont âgées de plus de 24 heures, tu sais que l'enfant ait 2 ans, 10 ans comme Aurore, ou ben les mères sont un petit peu plus âgées, sont dans trentaine, comme c'est le cas d'ailleurs de la fameuse Marotte là, qui avait 30 ans au moment de son procès. Alors ça change, c'est ça. Puis il y a beaucoup de déni aussi, beaucoup de... On peut pas parler de retard mental, mais un manque d'éducation. Et surtout un manque de maturité aussi. Là, c'est des gens qui, c'est des jeunes filles qui, bon, c'est sûr qu'on peut penser qu'il y en a certaines qui se sont faites peut-être violer, abuser, mais c'est pas nécessairement le cas de dans le néonaticide. Les bébés qui ont été abandonnés, tu sais, souvent, on a le cliché des bébés abandonnés sur le perron de l'église, tout ça. Bien souvent, ils étaient âgés de plus de 24 heures. Puis souvent, quand ils étaient abandonnés dans un but d'adoption, le bébé était vivant. Là, on parle d'autre chose. Les bébés ici sont abandonnés. Ce qui est caractéristique, c'est comme si le bébé avait plus aucune importance. Donc, il est abandonné n'importe où. C'est un tas de fumier dans les poubelles. En tout cas, je sais que tu as une question, on va y aller, mais dans les poubelles, c'est assez symbolique.
Oui, ben en fait, selon les notes là, que j'ai révisées un petit peu, je voyais aussi qu'il y avait une certaine caractéristique qui sortait ressortir aussi du lot, que la plupart du temps, ça venait de milieux défavorisés.
Oui. Oui, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Tu sais, le cas que tu as relaté en 2015. En début de balado, c'est exactement ça aussi. Puis bon, elle est pas difficile à retracer, la jeune femme aujourd'hui. J'en dirai pas plus, là, mais elle a refait sa vie. Mais c'est ça, c'est un milieu défavorisé. Est-ce que dans son cas, c'est vrai que son chum abusait d'elle? Ça fait pas partie vraiment du profil de la tueuse dans le domaine du néonaticide. Mais c'est pas impossible non plus. Tu sais, on ira pas remettre en question sa parole. Mais normalement, c'est ça. C'est le mari est même pas au courant. Je dis le mari, mais bien souvent, il n'y a pas de mariage, là. Tu sais, c'est la grossesse n'est pas connue. Ou bon, ça peut être. Tu sais, comme je disais tantôt, un manque de maturité sentimentale. Elle peut avoir eu une petite relation sexuelle avec, puis elle sait pas le risque qu'elle pouvait tomber enceinte. Tu sais, il y en a qui sont vraiment moins éduqués quand ils sont jeunes à cause de leur milieu, tout ça. Fait que c'est ça qui produit le néonaticide. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y en ait autant. Tu sais, quand on fait la recherche, là, même encore aujourd'hui, on va le confondre avec l'infanticide. Mais l'infanticide, selon le CCM3, puis selon, moi je suis pas d'accord avec ça aussi, on devrait le réserver, ce mot-là, quand c'est des enfants qui se font tuer par des inconnus, autres que la famille. Ça, c'est un infanticide. On va parler de filicide dans le cas des parents qui vont tuer leurs enfants plus âgés, comme par exemple le cas d'Aurore l'enfant-martyr faudrait être classé dans un filicide commis par une mère maltraitante, même si, tu sais, je veux dire, c'était sa mère adoptive, on parle pas de sa mère, mais on parle de mère quand même, parce qu'on regroupe tout ça là-dedans. Hein. Alors, et comme l'affaire Turcotte, ben là, ça serait un père, filicide par un père non maltraitant, parce qu'il y a une grosse différence, on va le voir aussi dans un autre balado, il y a une grosse différence à faire entre un père et le cas d'une mère aussi, et il y en a qui sont maltraitants et d'autres qui sont non maltraitants. Puis on va voir que des fois, il y a des différences assez marquantes. Alors, c'est ça, il faudra faire la différence entre le néonaticide, parce que si, tu sais, ce que ça peut aider la classification, des fois, c'est pas nécessairement à résoudre des crimes. Mais quand on va en voir aux nouvelles, on va comprendre plus facilement. Tu sais, mettons, là, t'entends parler aux nouvelles d'un bébé trouvé dans une poubelle, ben tu chercheras pas un gros poilu de 6 pieds 8 là, qui a fait de la lutte, là. Tu sais, tu vas chercher une mère, on le sait à cette heure comment que c'est, tu sais, le profil de ça. On va chercher une mère qui est peut-être âgée de 25 ans et moins, qui fait profil bas, puis tu sais, qui... c'est ça, tu sais, on va chercher surtout ça. C'est sûr que des fois, il y en a beaucoup, quand on remonte, j'ai pas les données là, des années plus récentes, mettons, là, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, mais souvent, c'était des choses... des crimes qui n'étaient pas résolus. Si, par exemple, le cas le plus ancien que j'ai répertorié jusqu'à maintenant, à moins d'en trouver d'autres, là, mais le plus ancien, ça date de 1708. Puis c'était le bébé de Marie-Blanche Dupont. Je dis ça parce qu'il semble jamais avoir été baptisé. Puis le crime se passait à Québec. Elle aussi, elle a été condamnée à mort. Puis même au carcan, puis à être bannie, là, c'était à mode dans le temps, là, c'était encore l'époque de Nouvelle-France. Elle a été bannie de Québec pour une période de 3 ans. Mais, tu sais, c'était un peu contradictoire parce que t'es banni de Québec, mais t'es condamné à mort. Là, décidez-vous, là. Est-ce qu'on te pend ou bien est-ce qu'on va te revoir dans 3 ans? En tout cas, ben on sait pas.
Ben, au pire, ils peuvent la pendre, genre, juste sur les lignes entre le Québec puis genre, l'Ontario, moi, quelque chose. Je sais pas trop. un peu comme le film Bon Cop, Bad Cop, là, ils vont se poser la question qui traite le problème. Ouais, là. Ça.
là.
Fait des petites faces ici, tout ouais. Le monde.
Puis après ça, tu sais, il y a des cas. 1732, Marianne Sigouin a été pendue, elle, pour avoir tué son enfant nouveau-né à Québec aussi. Puis, dans son cas, c'était écrit dans l'enquête de coroner, je le dis entre guillemets, a été retrouvé sur le port proche de la plateforme. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? On voit que ça a été trouvé sur le quai pour le mettre Québec. Ensuite, 1732, la même année, à Trois-Rivières, Marianne Gendron a tué son enfant, puis elle a tenté de se suicider par la suite. T'sais, fait que le suicide aussi est présent. Il y a peut-être une dose de dépression dans ça aussi. 1835, un néonaticide à Québec, mais on a très peu d'informations. C'est ça qui est malheureux des fois. Dans mon dictionnaire, j'ai souvent pas de nom pour désigner l'enfant, puis des fois même pas le sexe. On sait même pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. 1840, là c'est sûr que y a nos auditeurs des fois... Ils veulent peut-être des cas plus récents. J'en ai pris des anciens, mais ça change pas vraiment. Le profil est toujours pareil. Ici, ça a été 4 mois de prison pour Anastasie Chevaudier, dit Lépine, parce qu'elle a tué son enfant, elle aussi. Voilà, 1853, oui. Angélique Garand a été acquittée, elle, du meurtre de son bébé pour des conditions mentales. Puis là, je dis conditions mentales parce que c'était le mot qui a été utilisé à l'époque dans les journaux. Je pense que j'en ai passé un aussi, d'un couple à Hemingford.
Oui, le 1848, ouais. Peter Brennan et Catherine Whelan. Je ne sais pas si je le prononce bien. Si tu veux, je peux même le présenter.
Ben oui, vas-y, continue, t'es bien parti.
j'avais un œil sur ce qui se disait. Donc, ils venaient en fait de Hemingford. Ils ont été accusés d'avoir tué des jumeaux nouveau-nés. Le couple aurait demandé à leur fils de 12 ans de donner des coups dans le ventre de l'une des victimes. Et finalement, contre toute attente, le couple a été acquitté.
Ça a l'air qu'ils ont manqué de preuves.
Donc, c'est pas toujours juste.
Fait que, je serais curieux parce que, tu sais, on va le dire à nos auditeurs aussi, il y a beaucoup de cas comme ça que, bon, c'est les journaux qui nous informent de ces époques-là, tout ça. L'idéal, c'est sûr que l'idéal, ça serait toujours de consulter le dossier judiciaire, le procès, puis tout ça. Puis dans certains cas, il n'existe plus. Puis dans d'autres cas, ben tu sais, si on le ferait à chacun, ça serait épouvantable. Là. je commencerais à faire des balados à 80 ans parce que avant ça, j'aurais tout lu les dossiers. T'sais. Des fois, c'est très laborieux, faut l'admettre. Là.
Comme on dit, vaut mieux tard que et voilà. Jamais.
Puis ici, il y a un autre cas aussi, 1852, que je voulais parler, parce que c'est un cas très bref, on a très peu d'informations, sauf qu'on sait que c'est une petite fille qui a été retrouvée dans le canal de la fonderie Dunbar à Montréal. Je sais pas si, je pense pas que ça existe encore, la fonderie Dunbar. S'il y en a qui ont des infos là-dessus, t'as-tu une idée de ça?
J'ai pas bien compris l'année.
1856.
Ah, OK, c'est bon, parce que j'avais compris 52, okay. Là, j'étais genre
un trou. Mais dans ce cas-là, c'est... dans ce cas-là, c'est que le bébé a été jeté dans le canal de la fonderie. Ça n'a jamais été élucidé, comme plusieurs. Mais, tu sais, c'est pour montrer aussi que le bébé, souvent, je pense que la mère, dans ce cas-là, elle a fait du déni de grossesse. Quand que le bébé vit au monde, elle, ça se peut pas. Fait que le poupon n'existe pas pour elle. Donc, quand elle s'en débarrasse, c'est pour ça qu'on trouve souvent des cas dans les poubelles, carrément. Là, ici, c'est un canal, mais c'est arrivé aussi, là, je ne l'ai pas répertorié. Mais je me souviens aussi d'avoir vu un tas de fumier, carrément, à Trois-Rivières, parce que dans ce temps-là, les gens circulaient à chevaux. Hein? Les chevaux étaient partout, donc ça prenait des tas de fumier pour ramasser ça en ville. Donc, il devait avoir des tas de fumier un petit peu partout. Puis, on trouvait un bébé là-dessus. Un autre qui a été trouvé dans un égout que ça avait bouché. En tout cas, tout ça, ils ont fait le saut. Hein? Quand les gars de l'aqueduc trouvent un bébé, c'est assez spécial. Tu dois être traumatisé pour le restant de tes jours après ça. Donc, c'est ça, on dirait que le bébé, là, vraiment, vraiment, compte pas, là. C'est comme si c'était un déchet. C'est triste à dire, là, mais C'est pas ça.
Ben, surtout de la façon qu'ils sont laissés abandonnés, là, c'est pas mal ça qu'on retient du message, indirectement, là, c'est un tas de fumier, les égouts, toutes des places quasiment là, improbables, où est-ce qu'un bébé devrait pas se trouver, ben finalement, il y a possibilité d'en trouver un s'il y a eu un cas de néonatide, ouais, voilà.
C'est ça, fait que si vous entendez la prochaine fois un bébé retrouvé dans les ordures ou dans des conditions douteuses, tu sais, ça pourrait être un fossé le long d'une route, tu sais, un lieu là que vraiment le bébé a pas sa place, là. C'est probablement un cas de néonaticide. Le problème après, c'est pour les enquêteurs de remonter la trace. Tu sais, des fois, on dit que l'ADN, c'est un outil merveilleux. Mais si tu trouves un bébé, oui, tu as l'ADN, mais comment remonter à celui de la mère si tu n'as pas d'autres indices? Là, c'est assez compliqué. Alors, c'est ça. C'est pour dire que malheureusement, ça existe. Puis c'est ça. Ça serait environ... moi, ce que ça me donne présentement, c'est 1,8% à peu près de tous les homicides, c'est des néonaticides. Puis le docteur Labbé l'a dit déjà, je l'ai trouvé dans un article du Soleil qui a paru le 29 septembre 1992. Si vous voulez aller voir, vous irez. Lui, il parle de 10%. Il parle par expérience parce qu'il travaillait là-dedans. Il a pris sa retraite, je pense, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. On s'était parlé brièvement pour le 100e anniversaire d'Aurore l'enfant martyr, justement, parce qu'il avait lu mon livre, puis en tout cas, je me lance pas des fleurs, mais il avait bien aimé. Puis quand un homme comme ça, respecté dans son domaine, me dit ça, ben, il me dit, ouais, OK, c'est spécial, mais j'aime ça, tu sais. Puis on avait publié chacun de notre côté pour le 100e d'Aurore, moi dans Le Devoir et puis lui dans le Soleil, je crois. Alors, je lui lève mon chapeau pour toutes ces années qu'il a travaillé à faire de son mieux, dans le fond, pour le bien-être des enfants. Mais c'est ça, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement.
Aussi, j'ai constaté là, qu'il y avait un autre cas là, qui avait été souligné concernant la Madame Anne Doulay. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus?
Oui, Anne Doulay, il y en a tellement, écoute, que j'en ai choisi comme ça. Anne Doulay, ça se passe le 29 juin 1857. Elle, c'est un autre cas type. Hein. On voit que le pattern qui se dessine, c'est qu'être la jeune femme va être enceinte, mais elle essaye de cacher sa grossesse, de vivre ça toute seule, parce que, bon, elle n'a pas d'appui masculin non plus. Là, souvent, c'était des filles qui n'étaient pas mariées. Puis c'était à une époque aussi que c'était mal vu. Il y a toute cette pression-là, mais l'époque, la pression religieuse, on pourrait croire que ça a joué un rôle longtemps, mais là, le cas de 2015 que tu as présenté au début, ça a pu sa raison d'être, puis le néonaticide reste encore. Donc, c'est ça, dans le cas de Doulay, elle, c'est au Albion Hôtel de Montréal qu'elle a donné naissance à un petit garçon. Et selon le témoignage d'une de ses collègues de travail qui s'appelait Margaret Purcell, ou Purcell, là, en tout cas, d'après moi, c'est Margaret, parce qu'il n'y a pas de TTE. Elle a vu l'enfant mort dans les toilettes. Si on parlait de toilettes encore, c'est souvent ça, hein, c'est le pattern, c'est le mode de, j'oserais pas dire mode opératoire, là, parce que c'est quand même pas un meurtre prémédité ou le meurtre d'un prédateur. Là. Mais quand elle a demandé ce qui est le plus cocasse ou bon bref, quand elle a demandé à Anne Doulay si l'enfant était vivant à la naissance, ben la mère a répondu « Je n'ai pas pris le temps de regarder. » Mais selon l'autopsie, le bébé il est mort de suffocation, donc... c'est elle qui l'aurait étouffée, comme on dit. Puis pour ça, ben, elle s'est mérité 23 mois de prison. 2 ans moins 1 mois, si on veut. Alors voilà, puis c'est ça. Peut-être qu'elle a fait du déni aussi, parce que dans le CCM3, ce qui est dit, c'est que souvent les mères s'en rappellent plus de ce qu'ils ont fait. Du moment de passer à l'acte, donc si elle l'a étouffée ou peu importe. Là, il y a des bébés qui ont eu des conséquences pires que ça. Des fois, c'est des coups avec des objets contondants, rien de moins. Là. Ils sont déjà pas assez petits de même qu'il faut qu'ils prennent des armes plus grosses. T'sais. Fait que... voilà, c'était le néonaticide.
Donc, en 2008, le 14 juillet, on a un nouveau-né qui a vécu malheureusement très peu de temps. Toujours un néonaticide. C'était à Limoilou, la mère étant Marie-Ève Bastille, 23 ans, accusée de meurtre. En fait, le bébé a été retrouvé mort dans de... Excusez-moi, je déparle. Le bébé a été retrouvé mort dans un sac à ordures d'une résidence de Limoilou.
Oui, encore une fois, les ordures. Donc, c'est un temps, là.
Ouais, c'est un, on dirait un truc de prédilection pour les néonaticides, exact. Et puis, on a un cas encore plus récent, 2017. Donc, en 2017, le moindre, tout un cas, en fait, c'est le 1er novembre, il y a trois bébés non identifiés de néonaticides toujours à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La mère de 29 ans a été condamnée à 8 ans de prison le 1er novembre, la date de l'arrestation de la femme de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour le meurtre des trois enfants nouveau-nés. Ce qui est arrivé, c'est que trois semaines plus tôt, la jeune mère s'était présentée à l'hôpital de Saint-Eustache pour une hémorragie vaginale. La chirurgienne s'est occupée d'elle, puis elle a constaté que la patiente venait d'accoucher. Mais que la patiente en question le niait. La chirurgienne a alerté le personnel médical. Les policiers ont fait une découverte troublante au sous-sol du domicile de l'accusé. En plus du nouveau-né décédé retrouvé emmailloté dans un drap à l'intérieur d'une marmite, les enquêteurs ont localisé les cadavres de deux autres bébés. Ils étaient issus de grossesses distinctes. Ouais. Elle remontait à une période comprise entre 2014 en décembre puis février 2017. Les policiers ont pu établir que le père des enfants n'était pas au fait de la présence des petits corps dans son sous-sol, ni même des grossesses de la conjointe. La preuve... Oui. Excusez-moi, je faisais
un... Non, mais encore une fois, on voit le même modus operandi. Ce qui frappe là-dedans, c'est que c'est l'âge un peu qui correspond. Elle est un petit peu plus vieille que les autres, elle a 29 ans, mais c'est au moment qu'elle se fait attraper. Puis là, on voit que ça remonte jusqu'à 2014. Elle avait à peu près 25 ans quand ça a commencé. Mais tu sais, c'est un côté âge, là, c'est un cas d'exception. Puis après ça, la preuve, si je me souviens bien, la preuve a démontré de multiples façons que l'accusé avait menti en grande partie sa vie sur de nombreux sujets. Donc, c'était comme, je pense que c'était une menteuse chronique, là, quelque chose comme ça.
Il y a un terme pour ça... Les personnes qui mentent tout le temps, j'ai un petit plan des mythomanes, c'est ça?
Ouais, exactement.
Super mythomane en fureur, tuant finalement trois de ses nouveaux-nés.
Ouais, c'est ça. Ouais, puis on a même déterminé qu'après, malgré tout ça, qu'elle n'avait pas de problème psychiatrique. Selon un
médecin. Est-ce que ce serait simplement dû, exemple... Comment on appelle ça? Je pense qu'il y a comme la dépression postpartum, que ça s'appelle.
Ouais, ça se peut. Ça se peut. Mais en tout cas, elle a fini au moins condamnée. Elle a eu un petit peu plus que d'autres mères. Elle a été condamnée à 8 ans de prison. Fait que, c'est pour démontrer, comme tu le disais tantôt, là, pour montrer aux auditeurs que le crime du néonaticide a comme pas évolué dans le temps. C'est pratiquement du copier-coller entre le premier de 1708 puis ceux d'aujourd'hui, tu sais. Selon les époques, il y a des petites nuances dans le sens que, tu sais, on a vu des bébés abandonnés dans des canals ou des tas de fumier, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais le tas de poubelle puis le container est pas mal synonyme de fumier, là, si on veut.
Fait que, je pense qu'aujourd'hui, les vidanges, c'est toujours d'actualité. Là. Je crois que les gens, des fois, oublient que... On retrouve pas mal tout, n'importe où pareil. Ouais. Là. C'est sûr qu'il y a moins de tas de fumier parce que les gens vivent en ville, là, mais c'est ça, mais des déchets, il y en a pareil.
Ouais. Il y a quelque chose de psychologique. Quand tu jettes quelque chose aux ordures, c'est comme ça m'appartient plus, c'est fini, je le reverrai plus, ça s'en va quelque part de mystérieux qu'on voit plus.
Grosse déresponsabilisation à ce moment-là.
Mais ce qui m'amène à dire que il y a plein de cas qu'on ne sait pas que peut-être on passe aux ordures et qu'on n'aura jamais su. Tu sais, ça, c'est sûr qu'on a découvert, mais peut-être qu'il y en a qui ont passé en dessous du radar puis qu'on ne saura jamais. Tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, il y en a plusieurs qui étaient non élucidés parce qu'on ne savait absolument rien. Les techniques d'enquête aussi, tu sais, puis on parle à une époque, là, les premiers corps policiers sont apparus dans les années 1800, puis bien souvent vers la deuxième moitié des années 1800. Fait qu'avant ça, il n'y avait même pas d'enquêteur, c'est le coroner faisait ce qu'il pouvait, puis il n'y avait pas de formation, hein, fait que voilà.
Puis, juste pour clore, là, l'événement de 2017, de ce que j'ai lu, en fait, là, ça disait qu'elle était condamnée pour triple meurtre, mais ça, c'était en juillet 2019. Finalement, elle a fini par plaider coupable pour homicide involontaire, dissimulation de cadavre et corruption de mœurs.
Ouais, exactement. Et puis, il y en a tellement plusieurs autres que, tu sais...
On manquera pas de contenu.
Non, exactement. T'sais, en pensant que là, on le sait maintenant que c'est dur à mettre un chiffre officiel là-dessus, mais sur d'autres, ça va être plus facile. Mais t'sais, si on pense que c'est entre 8 et 10% par année, globalement, t'sais. Mais c'est beaucoup. Trop.
Ouais, c'est ça, toujours trop. Et puis, avant de clore le podcast, il y avait une dernière petite chose là, qu'on voulait mentionner. Selon le journal de Waterloo, il y avait eu 217 néonaticides ou infanticides, là, comme il disait à l'époque, aux États-Unis au cours des années 1890. Pardonnez-moi. Tout ceci porte à croire que le néonaticide est une catégorie d'homicide qui a été négligée par les études ou même par l'intérêt public, car en effet, lorsqu'on considère seulement la période de la Nouvelle-France jusqu'à la fin du 19e siècle, le néonaticide représente environ 10% de tous les types d'homicides répertoriés par le DHQ.
Et voilà.
Et mon cher Eric, petite question pour nos auditeurs qui sont peut-être pas calés en archives ou en crime et quoi que ce soit. Qu'est-ce que le DHQ?
Le DHQ, c'est le Dictionnaire des homicides commis au Québec. C'est ce que je suis... Il n'a pas été publié encore, donc il est encore au niveau de la recherche, mais déjà, il fait à peu près 1500 pages. C'est ça. C'est
toujours inachevé, donc ce sera... plus que...
Ouais, c'est ça. Fait qu'il est toujours en construction. Je me suis mis une limite géographique, c'est-à-dire le Québec, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter quelque part. Mais par contre, je m'en suis pas mis sur la limite de temps, donc ce qui veut dire que je pars de la Nouvelle-France, donc le premier meurtre en 1608, jusqu'à aujourd'hui, parce que je continue à les récolter aujourd'hui. Ceux qui sont vraiment, vraiment d'actualité, des fois, j'ai pas le temps de les étudier, tout ça, parce que là, je monte encore dans le temps. Mais à un moment donné, je vais rattraper, puis c'est ça. Et c'est de voir qu'il y a des classes qui apparaissent avec le temps, d'autres qui semblent s'estomper. Mais en tout cas, le néonaticide, ça n'est un qui semble être là pour rester, malheureusement. Puis, comme disait John Douglas dans son fameux CCM3, ce serait la période de notre vie, la période de notre vie à laquelle on est le plus vulnérable d'être susceptible d'être assassiné par quelqu'un, c'est au cours de nos premiers 24 heures de vie. C'est fou, hein? Ça veut dire que si tu as survécu à ta première journée, t'es correct.
Ah, puis encore, il y a d'autres épreuves de la vie par la suite. C'est pas tout le monde qui a réussi à passer le coup, mais...
Ouais, mais c'est fou,
c'est surprenant,
hein.
J'étais pas au courant quand on y repense. Finalement, tous les auditeurs du podcast, comptez-vous chanceux, vous avez survécu à votre premier 24 heures.
Ouais.
Donc, ça conclut le podcast. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, mon cher Eric?
Non.
Je pense qu'on en a dit beaucoup. On a du contenu en masse pour vous.
Ouais, la prochaine balado, ben, on va aller dans quelque chose que les gens vont sûrement être intéressés. On va aller dans le cas non résolu. J'ai un cas non résolu pour vous. Je dirais pas quoi encore,
Mais c'est on va se garder une petite gêne, là.
Ouais.
On...
Mais c'est un cas non résolu.
On veut que vous soyez curieux, mais si vous avez envie d'en entendre davantage.
Mais c'est un cas non résolu qui n'a pas été couvert par personne jusqu'à maintenant. Puis quand je dis par personne, ça veut dire la fameuse mode du true crime là, depuis une trentaine d'années. Quand on fait une recherche sur Google, une recherche précise avec le nom de la personne assassinée, ben, je suis le seul à en parler. Fait que ça ne vaut pas bien. Mais on va peut-être comprendre pourquoi, parce que c'est quand même difficile d'obtenir des informations. Puis on va peut-être en avoir...
Peut-être que tu vas inspirer d'autres podcasteurs de True Crime avec
ouais, parce que dans article. Les podcasts, en tout cas, s'ils sont répertoriés sur Google, ça veut dire qu'il n'y a aucun podcast qui en a parlé non plus jusqu'à maintenant. En tout cas, puis ce qui est intéressant dans ça, c'est que vu qu'on a de la misère à avoir de l'information... j'ai demandé la semaine dernière, donc c'est du récent, on fait de l'enquête sur le terrain, là. J'ai demandé à avoir accès à l'enquête du coroner dans ce cas-là. Fait que peut-être que d'ici à l'enregistrement, ben j'aurai des informations. Sinon, si au moment de faire l'enregistrement, j'ai pas obtenu l'enquête de coroner, ben on reviendra sur le sujet par la suite. Et aucun problème là-dessus, on fera un suivi.
Ben oui, écoutez, on tient nos auditeurs au courant, c'est quoi... On ne sait pas encore comment on va gérer les plateformes de réseaux sociaux, mais il se pourrait fort bien qu'il y ait des updates qui se fassent, peut-être des petites parenthèses sur les réseaux sociaux quand c'est vraiment des petites mises à jour. Sinon, peut-être qu'on dédiera un podcast aux mises à jour. On ne sait pas encore. On y va, comme on dit, go with the flow. Hein? On va y aller comme ça.
Ben, c'est ça, une enquête. Quand tu commences une enquête, tu sais comment elle commence, mais tu ne sais jamais comment elle finit. Fait que puis s'il y a des auditeurs qui ont des cas à nous soumettre ou qui ont des cas qu'on pense qu'ils n'ont jamais fait l'actualité, qui mériteraient d'être que ce soit des cas résolus ou non, eh bien, on les invite à nous écrire. C'est quoi déjà le courriel?
Une enquête à la fois à commercial@gmail.com, mais c'est vraiment tout écrit condensé ensemble. C'est pas mal un long courriel, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper si vous l'écrivez de bout en bout.
Parfait. Une enquête à la fois à commercial@gmail.com.
Exactement. Good. Donc, ça conclut pour ce premier podcast. Bien hâte d'avoir vos retours de commentaires si ça vous intéresse de nous en laisser, bien évidemment. Donc, merci beaucoup à toi, Eric, d'avoir joint le podcast pour nous faire part de tes recherches.
Merci beaucoup. Fait qu'on se dit à la prochaine enregistrement studio.
Exactement.
OK, good.
Bonne journée à tout le monde.